Donc, dans mon premier topo, vous avez compris comment le bébé humain est démuni, non structuré, dépendant de l'environnement, et aussi comment les 6 premières années sont placées sous le signe du tâtonnement initial pour instaurer une structure psychique progressivement, qui puisse commencer à gérer à peu près à la fois ce qui se passe en interne, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses, les angoisses, les pulsions, les fantasmes, et à la fois ce qui se passe dans les relations avec l'extérieur, les frustrations, les limites, les récompenses. Bon, bien sûr, c'est qu'un tout début de construction interne. Il faudra bien compter jusqu'à la sortie de l'adolescence pour que ça commence à tenir le coup. Mais comme vous l'avez compris, ce tout début se déroule sous le signe de la vulnérabilité. Et donc, il n'est pas étonnant que la psychanalyse, dès les débuts, ait remarqué l'impact des traumatismes que le bébé et l'enfant ont pu vivre au cours de leur développement. Traumatismes qui marqueront durablement la suite de l'existence, comme j'espère vous le démontrer. Alors, cette fragilité initiale, due à notre immaturité, à la néotonie, eh bien, elle est mise en épreuve par une quantité d'événements rencontrés au cours du développement. Ce qui est normal. Mais plus un organisme est fragile, plus les coups qu'il recevra, même s'ils sont faibles, marqueront leurs traces. Donc c'est de ça dont je vais vous parler, hein. Et on est encore dans le pourquoi la psychanalyse, puisqu'on verra comment on fait pour essayer de se libérer des traces de ces traumatismes. Donc en préalable, avant la question des traumatismes vraiment au sens propre, il y a deux concepts importants à comprendre qui sont la fixation et la régression. Freud compare la marche en avant du développement psychique à la marche en avant d'une armée dans un territoire inconnu. Une armée dans un territoire inconnu, elle va vivre deux types de situations qui l'affaibliront. Un premier type, évidemment, on y pense tout de suite, c'est quand l'armée rencontre une place forte, particulièrement difficile à conquérir. Du coup, il va y avoir des pertes, il va y avoir des douleurs, et en fait, quand ils réussiront enfin à rentrer, à conquérir dans cette place forte, eh bien, il va falloir qu'ils se remettent, qu'ils refassent leurs forces, qu'ils soignent leurs blessés, etc. Donc, l'armée qui vient de rencontrer une place forte particulièrement difficile à conquérir va rester fixée dans ce lieu pendant un certain temps. Et la période traversée par l'enfant, et on verra ensemble évidemment toutes ces périodes, orale, anale, phallique, oedipienne, etc. Elle aura été si difficile qu'il en restera une trace dans la structuration de sa personnalité quand ça a été mal passé, quand ça a été trop dur. Si difficile, ben pourquoi, dans quel cas? Alors, je vais vous faire un point de repère. Il y a un élément fondamental de compréhension qui nous va bien avec Winnicott, c'est quand il y aura du trop ou quand il y aura du pas assez. Winnicott parle toujours de suffisamment, une mère suffisamment bonne. Du trop ou du pas assez, c'est ça qui finit par faire du traumatisme. Exemple de pas assez pour un bébé en phase orale, au moment où il tète et tout ça. S'il y a un déficit des soins, s'il y a un déficit de nourriture, s'il subit la douleur de la faim, du manque, si son corps en prend un coup, etc. Donc c'est vraiment du pas assez. L'armée a souffert et le psychisme garde la trace de cette souffrance et de ce manque. Et du coup, ça va se manifester chez la personne devenue adulte par une avidité insatiable, pas seulement au point de vue nourriture d'ailleurs, et un sentiment permanent de manque à combler coûte que coûte. Fixation au niveau oral. Mais là, c'est la fixation du fait du pas assez, mais la fixation de l'armée peut aussi découler du trop. Vous connaissez l'histoire des délices de Capoue, où l'armée de Hannibal est restée coincée parce que c'était tellement bien de vivre la vie délicieuse à Capoue que non seulement l'armée va rester plus longtemps possible, mais aussi toute une partie de la troupe refusera de partir à la conquête suivante et décidera de rester fixée ici. Fixation. Donc le trop amène au même résultat que le pas assez, en ce sens que l'armée qui continuera sa marche en avant sera nettement diminuée en nombre, soit parce qu'une partie de la troupe on a trop souffert, soit parce qu'une partie de la troupe y a trouvé trop de délices et a plus envie d'avancer. Bref, l'avancée dans le développement psychique devient plus difficultueuse du fait des fixations. Alors, on pourrait se demander pourquoi le trop. Ben, exemple de trop. J'ai connu une mère qui, jusqu'à un âge très avancé de sa fille, mâchait la nourriture de celle-ci avant de lui mettre dans la bouche. Et par là même, elle empêchait l'évolution saine de sa fille, qui était parfaitement capable d'utiliser ses dents personnelles pour s'affirmer, pour être capable de se nourrir elle-même. Donc c'était des délices de capou un peu singuliers, bon, mais qui provoquaient une fixation. Et on peut voir du trop oral, du trop, et pas du pas assez, mais ça va avec le pas assez aussi, des gros buveurs, des grands fumeurs, des gens qui mangent excessivement, etc. Ou alors, il y a une autre variante, mais ça c'est un peu plus... C'est autre chose, c'est des grands orateurs qui ont investi la zone orale dans les relations. Donc, fixation qui induit qu'il y a une moins grande facilité à avancer dans son développement psychique. Et pourquoi il y a une moins grande facilité? Parce que le revers de la fixation, c'est la régression. L'armée, affaiblie dans sa marche en avant par la fixation, aura plus de difficultés pour conquérir la place suivante. Et du coup, face à la place suivante, elle sera tentée de se décourager, de se replier, de revenir au point de fixation précédent. Repli, régression à l'étape précédente, au prix d'un déficit, évidemment, en ce qui concerne l'enfant, dans la conquête de son autonomie et de sa réconciliation. Bon, un exemple de régression bien connu, l'enfant qui avait acquis la propreté sphinctérienne et qui se remet à faire caca dans sa culotte après la naissance du bébé suivant dans la famille. Il y a une difficulté forte et il y a une régression. Mais la régression, en fait, nous concerne tous plus ou moins quand des situations de notre vie deviennent trop difficiles. Bon, on ne se met pas à faire caca dans notre culotte, en général, mais on peut être tiraillé par des tendances plutôt pathologiques face à une situation difficile qui vont être une sorte de régression. Je ne vais pas m'étendre ici, mais juste dire par exemple que quand des problèmes viennent encombrer une relation amoureuse, ben, ils pourraient nous conduire vers un repli sadique anal envers l'autre qui est devenu un objet partiel. Tout ça, c'est des thèmes qui seront clairs à votre esprit plus tard, sadique anal, objet partiel. Mais simplement et tout bêtement, quand à la fin de la journée, on n'a plus qu'une hâte, se replier dans le lit pour enfin nous laisser aller au sommeil, ben ça c'est de la régression. Même la pensée en image peut être considérée comme une sorte de régression à un mode de pensée plus primitif. Bon, on y reviendra bien entendu. C'est juste pour vous dire que les traumatismes rencontrés au cours de notre développement psychique ont créé des points de fixation et des tendances à la régression qui orienteront considérablement notre mode de fonctionnement adulte dès lors que les circonstances rencontrées réveilleront ce système. Alors, voyons plus précisément ce qui fait traumatisme et qui marquera de ses coups l'organisme fragile de l'enfant qui est en cours de construction. Ils sont de deux sortes. D'abord, tout ce qui vient affecter brutalement et fortement le domaine des objets relationnels. Alors, vous savez qu'en psychanalyse, quand on dit objet, on veut dire objet d'amour, objet de haine, ce qui donne un sens inhabituel dans le langage commun, parce que ici, objet, par exemple mon objet d'amour, désigne généralement une personne. Bon, c'est une convention à laquelle s'habituer, mais qui pourra avoir son utilité lorsqu'on parlera, par exemple, d'objet partiel. Bref, revenons-en au traumatisme. Il y a donc tout ce qui vient affecter brutalement et fortement le domaine des objets relationnels. Autrement dit, par exemple, séparation, deuil, accident, maladie, un des parents qui est hospitalisé, abus sexuels, etc. Dans tous ces cas, il y a quelque chose comme une espèce de brutalité. Ça vient fracturer le psychisme, ou du moins la coque qui l'entoure, qu'on appelle son parexcitation lorsque celui-ci a commencé à se mettre en place. Et s'il n'y a pas de parexcitation, alors ça rentre en profondeur sans difficulté, comme un coup de couteau. Donc on est ici dans ce que j'évoquais plus haut, le trop ou le pas assez. C'est brutal, c'est trop ou c'est pas assez. Et c'est en plus avec de l'inattendu ou de l'impensable qui provoque de l'effroi. Je vais y revenir. Ça, c'est un premier type de traumatisme visible. Hein. La mère a été hospitalisée pendant 2 mois. Pour le bébé, c'est un traumatisme. Hein. C'est vraiment une absence, un pas assez qui va être brutal. Mais il y a d'autres choses qui sont traumatiques et que moi, j'appellerais le souvent. Trop, pas assez, souvent. Souvent, c'est ce qu'on pourrait appeler les micro-traumatismes, qui sont difficiles pour le psychisme infantile à voir, à se représenter, difficiles à repérer, à contourner, parce qu'ils sont plus insidieux, mais très destructeurs quant au narcissisme et à l'identité en cours de construction. Vous allez comprendre, je vais vous décrire 3 sortes de micro-traumatismes. L'empiètement, le délaissement, et peut-être le plus ravageur, l'alternance entre empiètement et délaissement. Dans l'empiètement, le parent envahit constamment l'enfant, lui disant ce qu'il est censé penser et ressentir, lui indiquant ce qu'il faut penser et ressentir, ce qu'il devrait faire, ce qu'il aurait dû faire, ce qu'il fera, la juste chose à faire, etc. Le parent en question est généralement en déficit de modèle interne de parent et croit sans doute bien faire comme ça. Et ça parlera à certaines personnes qui sont des parents d'enfants en difficulté en thérapie. Ou bien, ce parent pense son enfant comme un prolongement de lui-même ou d'elle-même, ou toute autre raison, bon, on n'en manque pas. Quoi qu'il en soit, cet empiètement empêche l'enfant de se créer un espace interne de pensée et de ressenti. Ça, c'est petit à petit micro-traumatisme qui fait que l'espace interne de pensée et de ressenti disparaît ou est inaccessible. L'empiètement, le délaissement. Le parent, encore en déficit éventuellement de modèle interne ou alors trop préoccupé par quelque chose d'important, n'a plus aucun espace pour l'enfant. Je pense à telle mère déprimée, constamment ailleurs, dans sa pensée, dans ses médicaments. L'enfant n'est plus dans sa pensée. Et lui, il est dans une très grande solitude affective et non pas dans ce que Winnicott a décrit avec tant de pertinence, qui est seul en présence de l'autre. On y reviendra. Paradoxe. Vous verrez qu'il y a plein de paradoxes dans notre histoire. Le paradoxe, c'est parce que le lien à l'autre est solidement là que l'enfant peut expérimenter de jouer seul, par exemple. Et nous verrons que la cure psychanalytique rêve éveillé est traversée, elle aussi, par de nombreux paradoxes structurants de cet ordre. Donc l'empiètement et le délaissement. Et puis, quelquefois, l'alternance entre délaissement et empiètement. Le parent qui se réveille de son délaissement et qui se met à en faire trop, empiètement, avant de retourner dans sa caverne d'absence, alors que l'enfant n'a même pas eu le temps de s'habituer à un style ou à un autre et de mettre en place les défenses qui lui seraient nécessaires. Donc vous voyez, on parle toujours de traumatisme spectaculaire, l'abus sexuel, l'inceste, les trucs qui ont été complètement sidérants pour le psychisme. On parle plus rarement des micro-traumatismes alors qu'ils laissent une trace beaucoup plus importante qu'on ne le croit. Et d'ailleurs, vous n'aurez pas de difficulté à imaginer ce que peuvent rejouer l'empiètement et le délaissement ou leur alternance dans les relations intimes plus tard en tant qu'adulte. Reste que l'enfant, lui, il a bien des difficultés à se représenter ce qui se passe, forcément, et à élaborer intérieurement quelque chose de pertinent lorsqu'il s'agit des micro-traumatismes du souvent. J'ai inventé ce mot-là pour représenter les micro-traumatismes, le trop, le pas assez et le souvent. René Roussillon, à propos de pouvoir se représenter et donc gérer le traumatisme, écrit la chose suivante, par exemple. Je cite. pour pouvoir se représenter et se séparer d'un mode relationnel, il est nécessaire que celui-ci ne soit pas pris dans le fond muet de ce qui ne se perçoit même plus à force d'être toujours présent. C'est tellement présent que finalement on ne s'en rend même plus compte. Ou tellement absent que finalement on ne s'en rend même plus compte. Alors, outre la difficulté à se représenter ce qui se passe, j'ajouterai quelque chose qui explique pourquoi le ou les traumatismes présentent une telle place dans notre développement psychique. C'est parce qu'ils s'inscrivent dans le corps et dans l'émotionnel. Je vais vous donner un exemple qui m'a encore convaincu de ça tout récemment. Mais ça risque bien de vous paraître ridicule, parce que c'est un peu ridicule, mais tant pis, je me lance. Il y a quelques semaines, alors que ma femme et moi étions très occupés, la porte de la cuisine s'est mise à grincer horriblement. Chaque fois qu'on l'ouvrait, elle frottait au sol en faisant un bruit super agaçant. Et chaque fois qu'on la refermait ensuite, rebelote, même bruit et même accompagnement de notre part par un merde vigoureux manifestant notre colère devant ce bruit surprenant. Bon, il s'agissait évidemment de rondelles de gonds trop usées qu'il fallait remplacer et donc la porte touchait le sol. Mais on n'avait pas vraiment le temps de s'en occuper, alors on a pris l'habitude de soulever un peu la poignée de la porte à chaque ouverture et fermeture pour éviter le bruit infernal. Et parfois, on oubliait de le faire. Et ça nous cassait à nouveau les oreilles, et ça nous rappelait à l'ordre. Quel mauvais parent, cette porte, hein. Bref, au bout d'un moment, n'y tenant plus, on s'est muni de rondelles adéquates, on a dégondé la porte, on a mis les nouvelles rondelles, on a regondé la porte et, au miracle, elle s'ouvrait et se fermait désormais tout en douceur. Eh bien, tenez-vous bien, et c'est là où je voulais en venir. Pendant des semaines, nous nous surprenions encore soit à soulever la poignée, soit à être surpris de ne plus entendre le bruit. Moralité, le mini traumatisme éprouvé à notre âge plus qu'adulte, eh ben, il s'était inscrit et dans notre mémoire du corps et dans notre mémoire émotionnelle. Quand j'ai dit à Chantal que j'allais vous raconter ça, elle s'est bien marrée. Elle m'a dit, ben voilà des beaux cours de psychanalyse. Mais mine de rien, est-ce que c'est pas là l'illustration de ce qui peut s'inscrire et s'installer dans le psychisme d'un enfant lorsqu'il y a des micro-traumatismes constamment répétés à travers l'inscription dans son corps et dans son émotionnel? Évidemment, d'autres micro-traumatismes peuvent exister et sont plus faciles à voir. Par exemple, une tendance d'un parent à dévaloriser, critiquer, rabaisser un enfant, et pendant des années. Bon, évidemment, ça peut avoir de grosses traces qui ont un pouvoir de destruction ou de fragilisation de l'identité même de la personne. Mais ce traumatisme cumulatif, comme on pourrait l'appeler, a plus de chances d'être repéré comme tel et traité comme tel, comme traumatisme, puisqu'il peut être aussi perçu plus tard dans l'enfance, après la période de l'amnésie infantile. Je me rappelle comment mon père me bombardait sans arrêt de critiques, de dévalorisation, de rabaissement, etc. Donc, c'est sur ce genre de traumatisme que peuvent travailler éventuellement des psychothérapies centrées sur les traumatismes. Faut pas oublier que des thérapies censées travailler sur les traumatismes, mettons le MDR, travaille effectivement sur deux points, des traumatismes dont la personne a le souvenir, et à partir de son histoire telle qu'elle la raconte et telle qu'elle s'en souvient. Or, vous le verrez, on le verra, rien n'est plus biaisé que l'histoire que l'on se raconte, et les souvenirs qu'on a sélectionnés pour la justifier, que j'appelle les souvenirs poinçons, comme le poinçon sur les bijoux qui atteste qu'il s'agit, par exemple, d'or véritable. On reverra ça quand nous parlerons de l'anamnèse en psychanalyse réveillée. Bref, les traumatismes antérieurs à l'histoire racontée, celle qu'on se souvient, et même parfois antérieurs au langage, relèvent de la psychanalyse, même si certaines approches passant par le corps et l'émotionnel, peuvent aller assez loin dans certains domaines, mais pas au point de tellement bien comprendre et se dégager que dans le travail psychanalytique tel que je vais vous l'expliquer. Les autres traumatismes, ceux du trop ou du pas assez, effractants, sont plus aisés à comprendre, évidemment, que les micro-traumatismes accumulés. Alors là, c'est plus facile de comprendre. Je pense par exemple à un patient dont un frère est mort sous ses yeux alors qu'il était encore tout jeune. Il devait avoir 3 ans et son frère 5 ans. Il n'en a aucun souvenir. Et pourtant, il sait mentalement que ça a été très important pour lui et traumatique. Donc, aucun souvenir. Et par contre, dans sa vie réelle adulte, non seulement il n'a pas vraiment réussi à avoir une vie sentimentale satisfaisante, mais en plus, il est affligé d'une rectocolite hémorragique depuis longtemps qui a failli le faire mourir à un certain moment donné. Un peu comme si le psychisme infantile s'était dit, c'est à cause de moi que mon frère est mort. En général, quand il y a un traumatisme, presque toujours, on se dit, c'est à cause de moi. Et puisque c'est à cause de moi, alors j'ai pas le droit au bonheur, j'ai pas le droit à la réussite, j'ai pas le droit à la satisfaction de toutes sortes. Et par contre, je dois être puni jusqu'au point de jouer quasiment avec la mort. Il y a des expériences fortes qui nous sont arrivées même après l'âge de 6 ou 7 ans de l'amnésie infantile. Donc des expériences fortes qui nous sont arrivées, qui sont censées être mémorisables et dont on n'a aucun souvenir parce qu'elles sont trop douloureuses et violentes lorsqu'elles reviennent. Par exemple, je pense à une patiente qui a été violée par son père et son frère quand elle avait 10 ans. Elle n'en avait aucun souvenir, aucune trace, rien. Et ensuite, quand c'est revenu et qu'elle a recollé progressivement avec les souvenirs, et qu'elle en a parlé à son père et son frère, les deux lui ont confirmé les faits, et puis ils se sont moqués d'elle. De toute façon, c'est tout ce que tu méritais. Vous imaginez la violence. Or, cette patiente avait quand même 50 ans, donc ça veut dire qu'elle portait ce traumatisme depuis toujours, sans s'en souvenir, avec des tas d'inconvénients dans la vie réelle et des tas de symptômes, sans en avoir aucun souvenir. Pourquoi ça? Alors que c'était à 10 ans. Alors je vais reciter Roussillon, je cite surtout Roussillon et Winnicott. Il écrit à ce propos, je cite, le caractère à la fois irreprésentable et inassimilable de l'expérience subjective, c'est irreprésentable et inassimilable pour elle, aura pour effet que le sujet ne peut que tenter de se protéger contre les effets désorganisateurs de l'effraction. Il ne peut que mobiliser des défenses contre la confusion psychique produite par celle-ci, défense dont l'aspect majeur, nous le verrons, est de se retirer d'une manière ou d'une autre de la scène. Fin de citation. La difficulté avec le trauma, comme d'ailleurs avec certains autres aspects négatifs mal fichus, mal terminés, mal passés dans l'enfance, c'est que il laisse une trace qui joue sur l'identité même et du coup il constitue une sorte de fond invisible, naturel, non perçu, qui colore notre vie, qui la transforme à notre insu. Prenons l'exemple simple mais courant de l'abus sexuel, oublié, enfoui, comme celui de cette femme. Être abusé, utilisé comme objet sexuel, ayant subi une fellation forcée ou pire, vers 7, 8, 9 ans, etc., amène le psychisme à être sidéré, démuni, figé, incapable de faire autre chose qu'enfouir et oublier, mais aussi à en tirer de nombreuses déductions identitaires. En tant que femme, je suis un objet sexuel qu'on utilise. Je ne peux pas me défendre. Je dois me soumettre. Je sais ce qui plaît aux hommes, leur être livré comme une poupée, etc., etc. Pas difficile de comprendre que la plupart des prostituées ont été abusées dans leur enfance. Plus difficile à comprendre, par contre, pourquoi reproduire ainsi ce qui a été tellement effractant? Là se situe l'énigme de la compulsion de répétition. Pourquoi diable répéter et répéter encore ce qui a fait souffrir? Pourquoi installer ainsi un schéma de vie, un schéma de vision du monde? qui amène son lot de douleurs. On aura l'occasion d'y revenir et je ne vais pas reprendre toutes les réflexions théoriques à ce propos. Mettons quelques notions bien établies. Ce qui se répète, c'est quoi? C'est soit ce qui a disparu du paysage car c'était vraiment trop douloureux de continuer à le voir, le constater, s'en souvenir et d'être alors ravagé par des émotions et des sentiments déstructurants, affolants, au sens propre du terme, affolants. Donc, soit c'est ce qui a disparu du paysage parce que c'était trop douloureux, le trauma non supportable. Soit ce qui se répète, c'est ce qui n'a même pas été refoulé, clivé, dénié, mais qui, antérieur au langage, n'a même pas pu trouver de lieu où se déposer préconsciemment ou consciemment. Donc, ce qui renvoie aux expériences primaires, pré-langagières, avec les angoisses terrifiantes si ça se passe mal. Et vous voyez aussi la trace des micro-traumatismes. Alors, on peut se demander pourquoi ce qui est soumis à la compulsion de répétition et qui se répète en toute inconscience, c'est du négatif douloureux et pas du positif heureux. Eh bien, c'est que le positif heureux reste relativement accessible intérieurement. Les souvenirs heureux, les affects épanouissants sont beaucoup moins susceptibles d'être rejetés, refoulés, déniés, clivés, situés hors du conscient. Notre mouvement spontané, inscrit quasi biologiquement en nous, c'est de refuser la douleur, surtout lorsqu'elle est excessive, et de tout faire pour l'éloigner ou la faire disparaître. Donc pourquoi ça se répète? Ben justement parce que ça a été refoulé, clivé, mis au placard, alors même que rien de ce que nous avons vécu ne peut disparaître. Par conséquent, ces expériences devenues inconscientes ont tout loisir de colorer notre existence à notre insu. On pourrait dire que ça se répète pour trois raisons, mais évidemment on est loin d'épuiser la question ici. Première raison, l'inconscient pousse à se faire reconnaître et accepter dans le but de s'apaiser. Comme les vécus du bébé ont besoin d'être intégrés dans la mère afin d'être apaisés puis réintrojectés, l'inconscient pousse à se faire reconnaître. Deuxièmement, les éléments de notre personnalité qui restent dissociés ont besoin d'être reconnus et intégrés. Il y a du non-fini qui demande à être terminé sous peine de maintenir une tension douloureuse constante. Et troisièmement, un facteur négatif qui maintient la répétition douloureuse, le masochisme tente d'y trouver quand même du plaisir, cependant que la pulsion de destruction en nous, on y reviendra, y trouve son compte. La difficulté avec ce schéma inconscient qui se répète et qui nous entraîne dans une vie douloureuse, c'est que face à chaque répétition, chaque échec renouvelé, chaque abandon, chaque trahison, chaque empiètement, chaque abus, on a tendance, une fois adulte, à chercher les causes de tout ça dans l'actuel ou le relativement récent. C'est à cause de. À cause de mon conjoint, à cause de mon employeur, à cause de ma maladie, à cause de ci, à cause de ça. Ça nous empêche de retrouver les causes, l'origine de tout ça, parce qu'on trouve des causes actuelles qui sont fausses. Un petit tour du côté de Freud. Dans son livre « Au-delà du principe de plaisir », il a découvert que son petit-fils Ernst, 1 an et demi, prenait plaisir à tenter de maîtriser la situation où il voyait sa mère le quitter sans pouvoir y faire quelque chose alors que ça le faisait souffrir. Il a alors symbolisé ce qui se passait en jetant une bobine au loin de son berceau et en disant « forte » là-bas et en la ramenant vers lui « da ». Il la jetait, il la ramenait. Ainsi maîtrisait-il ce qu'il faisait souffrir. Symboliquement, il gérait la situation en ramenant vers lui avec exaltation ce qui s'était éloigné juste avant. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce propos de la bobine, et vous l'avez peut-être vu. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'à cette occasion, Freud a introduit la théorie de la pulsion de mort. Tout ne s'explique pas par la recherche du plaisir, ni même pour son petit-fils par la joie de retrouver la bobine. En effet, en l'étudiant, Freud a constaté que l'enfant présentait beaucoup plus de moments où il jouait à jeter en dehors de son berceau les éléments même qu'il aurait pu réellement ramener vers lui. Donc, la partie souffrance de la perte était plus présente et recherchée qu'il n'y paraissait. Et du coup, il y a eu une sorte de tournant théorique à cette époque, justement, pour montrer que tout n'était pas sous le principe de plaisir. Et Freud et la psychanalyse ont été conduits à réfléchir à des thèmes comme la pulsion de mort, le masochisme primaire, la violence contre les autres ou soi-même, la place nécessaire de l'agressivité, etc. Ça devenait plus compliqué, quoi, hein, avec la question de la pulsion de mort. On reparlera de tout ça, évidemment. Hein. C'est juste pour vous indiquer que cette question d'avoir un chemin de vie orienté à notre insu par des traumas oubliés est une question à plusieurs niveaux de lecture. Et quand on voit la douleur que les gens peuvent s'infliger eux-mêmes après l'avoir subie, on ne peut que garder, grâce à la compréhension psychanalytique, une vision complexe des comportements humains. Et par exemple, aussi bizarre que ça puisse paraître, une des façons de lutter contre l'effroi, c'est de répéter ce qui suscite ou ce qui a suscité l'effroi. En conclusion de cette partie sur les traumas qui ont tendance à se répéter et à orienter notre vie, on pourrait dire qu'il y a trois aspects à reconnaître et à travailler. Soit la façon dont la personne reproduit le trauma en toute inconscience. Si vous regardez à la télévision de temps à autre la série « Faites entrer l'accusé » qui décrit des cas réels ayant donné lieu à enquête et à jugement, souvent horribles, vous constaterez sans difficulté comment toutes ces horreurs ont été réalisées par des gens ayant eux-mêmes subi du violent et du destructeur. Même si toutes les personnes qui ont subi du violent et du destructeur ne sont pas devenues des meurtriers ou des violeurs, par contre, presque toutes les personnes de cette série montrent les traces ravageuses d'une enfance traumatique. Donc, un des aspects, c'est reproduire le trauma en toute inconscience. Un autre aspect, c'est au contraire de prendre le contre-pied du trauma, orienter sa vie en prenant le contre-pied. Je pense à une de mes patientes infirmières, plus de 50 ans, vieille fille, consacrée aux autres et n'ayant jamais eu le moindre rapport avec un homme. Sa vie entière a été orientée par son traumatisme subi à l'âge de 8 ans. Traumatisme sexuel. J'ai eu aussi une bonne sœur, dont le cas était assez similaire et qui avait consacré sa vie et qui était totalement vierge à un âge très avancé. Donc, soit reproduire, soit en prendre le contre-pied. Et dans la série des micro-traumatismes, troisièmement, on trouvera des gens en gros déficit identitaire, avec des pathologies lourdes, mais avec la difficulté de retrouver ce qui s'est passé dans leur toute petite enfance. Et là, on aura des supports différents, dont je vais vous expliquer comment on les utilise plus tard, quand on sera dans « Comment la psychanalyse ?», qui sont le contre-transfert, le rêve éveillé et la symbolisation permise par le préconscient. Bon, bien sûr, et pour conclure, je dirais que notre vie est sérieusement orientée, canalisée, déterminée par ce qui nous est paru traumatique dans notre enfance. Alors on peut être tenté par une histoire personnelle dotée de tous les bons poinçons qui garantiront que nous avons pu finalement assez bien traverser tout ça et que nous avons pu orienter notre vie pas si mal que ça. Je vous rassure, c'est pas complètement faux. Et on verra quels ont été les facteurs de résilience et les mécanismes de défense. Mais c'est pas si juste que ça non plus. Et je dois diriger aussi votre regard vers un gros morceau mettant en cause notre supposée liberté. Alors, ce morceau contient par exemple les identifications sur lesquelles nous nous sommes bâtis, y compris la fameuse identification à l'agresseur. L'autre en moi, c'est moi. C'est une partie de moi. Je crois que c'est moi, mais c'est une partie de moi qui est telle que l'agresseur, je l'ai eu, qui est identifiée à l'agresseur. Une partie de moi est identifiée à l'agresseur, par exemple. Ou identifié à mon grand-père, à ma grand-mère, etc. Je me suis bâti comme ça, avec l'identification. Je me suis bâti avec des traits de caractère qui sont fortement dépendants des espaces libres au moment de l'enfance. Un frère ou une sœur occupait-il tel ou tel trait de caractère? Alors, du coup, on en a choisi un autre. Diplomate ou agressif? Extraverti ou introverti, etc., etc. Mine de rien, les choix de nos traits de caractère sont assez dépendants de la place qui restait libre. L'identification, traits de caractère, il y a aussi les attentes parentales qui ont été déposées sur l'enfant. Si je suis une fille, comme je l'ai vu en clientèle, dont le père attend qu'elle soit le garçon qui va reprendre son entreprise parce qu'il n'a pas eu de garçon, aïe, aïe, aïe. Les attentes parentales. La place dans la fratrie. C'est pas pareil si je suis petit dernier, aîné, cadet, etc. Et ça va aussi déterminer mon style. Les loyautés. Restaurer mon père sans le dépasser. Ou me sacrifier à la place de tel ou tel, par exemple, etc. Alors là, on peut en trouver plein. Hein. Et moi, j'appelais ça dénoyauter les loyautés. Et puis, il y a le poids transgénérationnel et les secrets de famille dont je suis porteur à mon insu. On sait maintenant que l'épigénétique peut orienter l'expression de nos gènes, hein, qu'elle est héritée. On appelle ça l'empreinte parentale, autant que je me souvienne. Et ça peut orienter l'expression des gènes. Alors, pitié, n'en jetez plus. Même Spinoza et son absolue certitude que notre liberté n'est qu'une illusion seraient sans doute un peu accablés et ricanants devant cette liste gigantesque. Mais, et là j'espère vous permettre de continuer quand même les rencontres avec moi, le cœur léger, la psychanalyse, c'est justement cet objet hybride et paradoxal. Ce n'est pas de la philosophie, et pourtant elle est concernée par la question d'une vie pleine et d'une certaine liberté axée sur la réalisation de sa propre boussole interne et de ses propres choix. Ce n'est pas de la médecine, et pourtant elle est concernée par la question d'une libération des symptômes et d'une réalisation psychique suffisamment bonne, comme dirait mon cher Winnicott. Donc c'est donc ce que je nous souhaite à tous. Ce genre de parcours libératoire. Voilà.